Radio Kapi.
Les festivités des Nouvel An célébrées sous tension dans la région des Beni et Lubero au Nord Kivu. Un mouvement de déplacement massif des populations a été signalé hier mercredi, premier jour de l'an, dans le territoire de Lubero. C'est notamment en raison de l'activisme des rebelles des ZDF et de ceux de M23. Plus de précisions dans ce journal. L'opération Ndobo, grande opération de traque des bandits urbains dans la ville-province de Kinshasa, produit déjà ses effets. 450 délinquants ont été capturés la nuit du réveillon du Nouvel An. Information livrée par le ministère de l'Intérieur et Sécurité à l'issue de la ronde effectuée à l'aube du 1er janvier dans la ville par Jacquemain Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'invité de ce midi, c'est Donna Mambo. Il est consultant formateur dans la campagne de vulgarisation du guide d'investissement sensible au conflit lancé par la Fédération des entreprises du Congo, Nord Kivu, jeudi dernier à Goma. Donna Mambo explique les bien fondés de cette campagne dans quelques instants. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session de la mi-journée sur Radio Kapi. Au Nord Kivu, les populations des territoires des Beni et des Lubero ont passé les réveillons de la Saint-Sylvestre entre détresse et psychose. C'est notamment en raison de l'activisme des rebelles, des ZDF et de ceux du M23. Hier mercredi, premier jour de l'an, c'est à un déplacement massif des populations que l'on a assisté dans plusieurs villages du secteur des Bapéré, dans les Lubero par exemple. La société civile locale des demande au gouvernement congolais de prendre au sérieux la situation sécuritaire dans cette zone pour permettre aux habitants de vivre en paix. Guylaine Kassassia pour les détails.
Selon Samuel Kaini, le président de la société civile du secteur de Bapéré dans les territoires de Lubero, ce mercredi 1er janvier 2025, les habitants des agglomérations de Biambo et Ntiapanda Itendi ont dû fuir leur milieu, craignant pour leur sécurité après la tuerie des civils mardi par les ADF sur l'axe Butembo-Mangoré-Djipa. Pour lui, il est temps que la paix revienne dans la région.
Nous avons parcouru presque une moitié de l'année de turbulences. Dans notre secteur, nous sommes en train de compter au-delà de 650 compatriotes qui opéraient. Pendant cette année 2025 qui commence, nous sommes en train d'appeler les autorités de corriger les erreurs qui se sont manifestées pendant tout cet état de turbulence dans notre zone. Nous voulons à ce que l'année que nous commençons soit une année de paix parce que la paix c'est le socle de tout développement.
Pendant ces temps, dans les territoires de Beni, la situation sécuritaire reste tout aussi préoccupante, notamment dans les localités situées aux alentours de Ouicha, chef-lieu du territoire. Ici, dans la nuit des dimanches à lundi, les rebelles des ADF aussi la localité de Matombo, tuant 7 personnes. Le lendemain, dans la nuit de lundi à mardi, le village de Kekelibo a subi une attaque de ces mêmes rebelles des ADF, provoquant ainsi de déplacements des populations forcées de célébrer la fête du Nouvel An loin de leurs habitations. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Restons dans le Nord Kivu, cette fois dans la ville de Butembo où deux enfants d'une dizaine d'années ont été grièvement blessés par un engin explosif mercredi. Selon des sources sur place qui citent des proches des victimes, c'est depuis la veille que les deux manipulaient l'engin. C'est en allumant le feu que l'engin a finalement explosé, blessant ainsi les deux enfants. Tous deux ont été admis dans une structure médicale de la place pour des soins d'urgence. Interrogés sur leur lit d'hôpital par nos confrères de la Voix de l'UCG Butembo, ses enfants ont fait savoir qu'il s'agissait d'une pièce métallique ramassée dans un garage à Butembo. Entre-temps, à Goma, toujours au Nord Kivu, le gouverneur de province a choisi de fêter la Saint-Sylvestre avec les orphelins du centre Peace Live Center dans les quartiers Ndosho. Dans sa gibecière, outre les messages d'espoir et de résilience, il a offert quelques vivres. C'est à la grande satisfaction des bénéficiaires. Denise Lukeso.
C'est vrai, la fête a été en tout cas bien faite ici dans le site de Bulengo. J'ai constaté qu'il y a en tout cas la jouissance de certains ménages selon leur capacité. Différemment, chacun s'est organisé selon sa manière et aussi selon sa capacité. Et cela, c'est suite à l'assistance de cash donnée par le PAM. Vous savez que le PAM avait donné le cash de 2 mois à la fois, le mois de novembre et décembre. Comme tout le monde avait eu son cash, chacun il a fait la prudence d'épargner, d'économiser pour préparer la fête. L'année 2023, en tout cas, il n'y a pas eu la fête parce que tout le monde était en détresse. Et voilà, à la fête de 2024, la procédure bureau du PAM de donner l'assistance en cash. Vraiment, presque 95% des déplacés aillent son cash. C'est pour cela que chaque famille a organisé la fête de bonne année, selon sa manière et aussi selon sa capacité. Cette année, si le PAM continuait à donner cette assistance, vraiment, en tout cas, ça peut être soulageant.
Voilà, nous allons retrouver l'élément sonore sur la célébration de la Saint-Sylvestre avec le gouverneur de la province du Nord Kivu dans l'orphelinat dans nos prochaines éditions d'information. Là, il s'agissait plutôt de la célébration de la nouvelle année dans les camps des déplacés à Goma. Les festivités du Nouvel An se sont passées agréablement dans les hauts plateaux de Fizi, contrairement à celles de la Nativité qui étaient émaillées des affrontements violents entre les FRDC et la coalition rebelle Turaneo, Gumino, Makanika, Android, Red, Tabara. L'administrateur des territoires de Fizi, Kalonji Badibanga Sami, constate que cette accalmie, bien que relative, a permis aux habitants de passer la bonne année loin de tout bruit des bottes. Il le dit au micro de Jean Kassami.
La situation est relativement calme. Les belligérants n'ont pas encore bougé de leur front de ligne. Les arbres n'ont pas encore crépité. Il y a un calme relatif dans les hauts plateaux. Les affrontements qui opposaient les Tunakero, les Gumino, du Makanika aux forces régaliennes FRDC, il y a un calme relatif. On n'a pas encore signalé un combat. La bonne année se passe très bien, surtout l'étendue du territoire de Fizi. À Luko, après l'étape de réconciliation, la situation est revenue au calme. La population des deux côtés, les Babouyou et les Babembe qui étaient dans la forêt, sont déjà revenus. Les différents villages, celui du théâtre des affrontements Luko, l'animation est aux zénith.
8 personnes blessées, des sommes d'argent et des biens de valeur emportés, c'est le bilan des cambriolages enregistrés dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier dans la ville de Kalemi. Selon les mouvements citoyens qui livrent l'information, des malfrats munis d'armes blanches ont blessé les personnes avant d'emporter leurs biens. Témoignage de Nathan Mugisho, président de cette structure citoyenne. Il est au micro de Paulin Munanga.
La population de la commune du lac, précisément sur l'avenue Kabangé, et aussi de la commune de Lukuga, précisément sur l'avenue Solo, n'ont pas bien fini l'année. Pourquoi? Parce que d'abord, sur l'avenue Kabangé, nous sommes dans la commune Lukuga, il y a eu des bandits qui ont opéré toute la nuit. L'opération de ces bandits a pris au moins 12 maisons. Ces bandits munis d'armes blanches ont réussi à voler les téléphones, les appareils ménagers, de l'argent, mais également, ils ont administré des coups qui ont causé des blessures à des personnes qui sont actuellement internées, certains dans des hôpitaux aux environs de l'avenue Kabangé et d'autres à la clinique d'État au niveau de la colline, comme nous avons dit dans la commune de Lukuga, où les balles ont crépité et les bandits, ils ont opéré dans 4 maisons.
Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika n'a pas encore réagi à ce sujet. La fête de la bonne année 2025, célébrée avec faste par les enfants et adolescents dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Ces derniers ont envahi plusieurs endroits de la ville pour festoyer à leur manière. Le constat est fait par Radio Kapi au cours d'une ronde. Dans d'autres ménages, cette fête a été célébrée en famille pour voir comment projeter l'année nouvelle qui vient de commencer. Irène Bomaluzolo pour le reportage.
C'est dans l'après-midi, plus précisément vers 15h locale, que l'ambiance de la fête de Nouvel An 2025 a commencé à Bandunduville. Dans plusieurs artères, comme sur les avenues Wamba, Fatundu et dans d'autres endroits, l'on peut constater un bon nombre d'enfants et adolescents bien habillés, en solitude ou en groupe, se dirigeant dans différents lieux, notamment les bars, les terrasses et les espaces culturels, ou chez leurs proches. Certaines d'entre eux expriment leur sentiment de joie pour ce jour de fête.
Je suis joyeuse parce que c'est la bonne année. C'est un jour de joie. Là, je fais les maquillages et ma petite sœur aussi. Nous partons à Majestic pour fêter cette année. Aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est la fête.
Cependant, d'autres personnes, surtout les parents, ont préféré passer cette fête en famille, comme le témoigne le docteur Labila Amiza.
J'ai voulu rester avec ma famille à la maison, fêter ensemble, parler ensemble, mais je pensais vraiment réfléchir sur les bilans de l'année 2020. 2024 pour projeter l'an 2025.
Par ailleurs, certaines personnes, dont les jeunes de Bandundu, ont profité de l'occasion pour se livrer au tapage, à la nuisance sonore et à d'autres excès. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
450 délinquants ont été appréhendés lors de l'opération Dobo, une vaste opération de traque des bandits urbains menée dans la ville-province de Kinshasa. C'était dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. C'est le ministère de l'Intérieur et Sécurité qui livre cette information. La même source précise que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a effectué une ronde à 5 heures du matin alors que la ville émergeait à peine des festivités. Cela pour s'assurer de l'effectivité des opérations, marquant ainsi son engagement personnel dans la sécurisation de la capitale. Alain Hurung pour le détail.
Le périple de Jacquemain Chabani a commencé à la maison communale de Kintambo, où le général Blaise Kilimbalimba lui a présenté une cinquantaine de délinquants, fournissant des détails sur les réalités opérationnelles avant de se poursuivre au camp Lufungula, où une situation similaire a été constatée. À la police du district de la Changu, plus de 200 délinquants étaient alignés face à leurs victimes venues réclamer les objets volés. Jacquemain Chabani a également visité les maisons communales de Kalamu, Limété et le commissariat urbain de Mongafula dans le district de Lukunga, où d'autres groupes de délinquants étaient détenus, a précisé le ministère de l'Intérieur, soulignant l'ampleur de cette opération destinée à garantir la sécurité des Kinois.
Et puis, dans le territoire de Mambasa, en Ituri, des graves incidents ont émaillé mercredi, la troisième journée du tournoi de football, dit tournoi de la paix, qui s'est joué au stade Tata Mirindi. Les bilans des échauffourées fait état de la démolition de la clôture du stade, de l'incendie des filets des poteaux, ainsi que d'autres dégâts matériels enregistrés. À l'origine de cet incident, un malentendu entre deux équipes, dont l'une réclamait la sortie du stade d'un joueur de l'équipe adverse, au motif que ces derniers avaient écopé d'un carton rouge au match précédent. Le président du cercle de football de Mambasa, Sefoma, et le représentant de l'organisateur du tournoi ont été arrêtés par la police. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Le derby devait opposer le CS Piloliba Kolomangenda au SC Amani 4x4. Mais peu avant le coup d'envoi du match, les dirigeants du CS Piloli ont exigé la sortie d'un joueur du FC Amani, prétextant d'un carton rouge dont il aurait écopé lors du match précédent. Refus total de l'équipe adverse. Le FC Amani explique que son joueur n'a jamais écopé d'un carton rouge, car selon elle, il n'existe aucun rapport des arbitres confirmant les faits. Des sources internes au cercle de football de Mambasa Sefoma affirment que ces jours-là, les deux arbitres assistant avait boudé la rencontre et s'est réparti avec tous les cartons. Les mêmes sources ajoutent que l'arbitre central avait bel et bien expulsé le joueur en question, mais que, faute des cartons, il n'avait pu brandir le petit carton rouge. Après plusieurs minutes de discussion, les joueurs du CS Piloli vont quitter le terrain. Du côté du public, la tension monte d'un cran. Plusieurs centaines de spectateurs réclament à l'organisateur le remboursement des 2000 francs payés par chacun pour l'entrée au stade. Furieux, certains spectateurs vont brûler les filets et démolir la clôture du stade. La police qui n'a pas été réquisitionnée en amont interviendra plus tard pour limiter les dégâts. Le président de la société civile territoriale, Mungeni Mourani, qui confirme les faits, en appelle à la responsabilité des parties prenantes. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Autre nouvelle, quelques jours seulement après le passage du chef de l'État à Kananga, Félix Tshisekedi dépêche le ministre des Ressources hydrauliques pour évaluer la relance de la centrale solaire Mégatron à l'arrêt depuis 7 ans. Mise en marche, cette centrale de 2,5 MW pourra donner de l'énergie électrique supplémentaire dans la ville de Kananga en attendant les barrages Katende et Mbombo, a indiqué Teddy Luamba. Une occasion pour le ministre des Ressources hydrauliques de rassurer que dans un bref délai, la population de la ville de Kananga aura l'électricité. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Nous sommes revenus sous instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et nous sommes venus pour trouver des solutions d'urgence. Ici, il s'agit de ce site qui a fait pratiquement cette année à l'arrêt. Il fallait que nous puissions échanger avec les parties prenantes pour savoir comment nous pouvons mettre en marche et trouver les conditions de reprise. Et je pense qu'au bonheur des populations de Kasaï Central, nous avons eu à tenir des réunions très fructueuses et à l'issue de ça, je pense que très incessamment, nous allons reprendre des opérations ici, ce qui justifie la présence présence de toutes les parties ici, notamment la SNEL, le BCECO, le ministère de Finances ainsi que l'opérateur Megatron qui était sur le site toutes ces années. C'est une centrale de 2,5 MW, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui de sa capacité installée. Le reste sur la condition du matériel et tout, ça fera l'objet effectivement des évaluations. La population peut retenir que très prochainement, il y aura de l'électricité supplémentaire dans la ville de Kananga, en entendant les grands projets structurants qui arrivent.
Signalons que cette centrale solaire, inaugurée par l'ancien chef de l'État Joseph Kabila en 2016, est à l'arrêt depuis 7 ans suite aux divergences entre la société Megatron et la province du Kasaï central sur son fonctionnement.
Actualité internationale.
Depuis le 1er janvier, le Ghana a adopté une politique de libre circulation en permettant à tous les citoyens du continent de se rendre dans les pays sans avoir besoin de visa à l'arrivée. Ce geste renforce l'intégration régionale et facilite les déplacements au sein du continent. Le Ghana rejoint ainsi les 4 autres pays africains ayant déjà mis en place une telle mesure, à savoir le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin.
L'invité.
La Fédération des entreprises du Congo, au Nord Kivu, a lancé jeudi dernier à Goma la campagne de vulgarisation du guide d'investissement sensible au conflit. Sont concernés par cette campagne tous les intervenants du monde des affaires. C'est dans le cadre du projet de consolidation de la paix à travers le commerce transfrontalier dans la région du Grand Lac, projet mis en œuvre par Alerte Internationale. Pour comprendre ces guides, nous recevons Donna Mambo, consultant formateur dans cette campagne. Il répond aux question de Rosalie Zawadi.
Monsieur Donna Mambo, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi les guides d'investissement sensibles au conflit?
C'est qu'on doit constater que malgré qu'il y ait conflit dans une zone, les activités économiques se déroulent toujours. Un investisseur, maintenant, qui se veut venir investir dans une zone pareille, il doit être sensibilisé, il doit être d'abord informé de cet écosystème, comment on évolue dans cette zone-là à conflit. Ce guide-là n'encourage pas les gens puisqu'il y a conflit qu'on croise les bras. Non, non. Nous nous encourageons d'abord à travailler malgré le conflit, puisque, comme vous le savez comme moi, malgré qu'il y ait conflit, les gens mangent toujours. L'ironie du sort est que même celui qui a Karantchikov ou quoi, lui aussi doit manger. Ceux qui font la guerre doivent manger. Et paisibles citoyens que nous sommes, nous devons manger. Pour manger, il y a toujours le flux, donc le mouvement des biens et des services. Et ça, c'est l'œuvre maintenant de l'investisseur ou de l'homme d'affaires. Or, il arrive des fois que les conflits influencent beaucoup plus négativement sur les affaires et ça décourage très souvent l'investisseur qui n'est pas suffisamment informé comment s'y prendre. Et le guide consiste à encourager l'investisseur, quoi qu'il y ait conflit, comme le besoin est toujours là, comment s'y prendre. Non pas pour alimenter les conflits, mais comment on peut exercer et faire ce que nous appelons un commerce pour la paix. Voilà, en gros, ce guide-là que nous voulons vulgariser et qui se veut d'encourager les gens à travailler, mais aussi faire les business dans le cadre de promouvoir la paix.
Les entrepreneurs qui ont pris part à la séance sont déjà opérationnels sur terrain. Comment ce guide va orienter leurs activités?
Les participants à notre séance, ce n'était pas seulement les entrepreneurs, c'est tout l'écosystème économique. En d'autres termes, tous les intervenants du monde des affaires. Quand je parle des intervenants, on voit les agents de l'État, puisque il y a toujours cette interaction entre services de l'État et l'opérateur économique, mais il y a aussi des facilitateurs comme les agences en douane et consorts, comme des syndicats ou encore des regroupements. Alors tout ce qui forme l'écosystème économique, ce sont ces gens-là qui sont visés par ce guide. Alors la cible pour le guide, ce n'est pas pour le demander à changer ce qu'ils font, mais plutôt, je dirais, je n'aimerais pas parler de résilience, mais c'est dans ce sens-là, et que malgré les conflits, vous pouvez toujours travailler, vous pouvez toujours faire votre affaire, et là, le guide vient vous donner conseil. Pour celui qui veut s'investir dans le domaine, tel ou tel domaine, ou encore celui qui est dans le domaine, et comment il peut surprendre. Donc, le guide vise les investisseurs futurs et ceux qui sont déjà dans l'activité.
On sait que les entrepreneurs de l'Est ici interagissent avec leurs collègues des pays voisins. Est-ce que les pays voisins sont concernés par ces guides d'investissement sensibles au conflit?
Exactement, madame. Puisque c'est l'occasion de le dire que l'organisation qui nous aide à faire ce travail, c'est Alerte. Et le même travail, Alerte aussi va le faire avec l'écosystème est burundais, l'écosystème est rwandais, puisque l'activité phare ici, ou encore le secteur phare, c'est le commerce transfrontalier. Et quand on parle de commerce transfrontalier, c'est tout ce flux de mouvements-là, tous ces mouvements-là, des biens, des services qui traversent les frontières. Je peux implanter mon entreprise ici à Goma et peut-être les consommateurs de mon produit se trouvent de l'autre côté et vice-versa. Vous voyez ? Alors, ce service et ces biens qui traversent la frontière, même la main-d'œuvre, même chose, il y a certains travaux qui nécessitent une main-d'œuvre qui vient de l'autre côté. Vous voyez, ce mouvement-là intéresse aussi bien l'entrepreneur congolais ou encore l'opérateur économique congolais que nos voisins de l'autre côté. Voilà pourquoi le guide sera aussi vulgarisé aussi bien au Rwanda comme au Burundi.
Monsieur Dona Mambo, je rappelle que vous êtes formateur. Merci.
Je vous remercie.
Et c'est la fin de cette session d'actualité de la mi-journée sur Radio Kapi, supervisée et coordonnée par Alain Irung Mouchinj et Micheline Chuala Mupangi. Je suis Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de nous avoir écoutés.